La méditation de ce matin, là, pour, comme dévotion, on va se pencher sur le thème suivant, la Bible, un guide infaillible. La Bible, un guide infaillible. Courbez la tête avec moi pour une courte prière, puis nous allons commencer. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions d'avoir mis dans ta parole, Seigneur, autant de trésors, d'avoir mis dans ta parole tout ce dont nous avons besoin pour avoir accès au salut. Et de l'avoir donné, Seigneur, de vraiment de façon complète, de façon simple à la comprendre. Sois avec nous alors que nous allons méditer autour de la parole de Dieu comme un guide, comme une boussole, Seigneur, pour pouvoir nous diriger sur cette terre. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Donc la Bible comme guide infaillible, qu'est-ce que j'ai derrière la tête quand je mets ce titre? C'est que parfois on peut entendre des commentaires, des personnes dire que la Bible, c'est pas un livre d'actualité, ok? C'est pas un livre, les derniers écrits ont été écrits il y a environ 2000 ans. Donc, comment est-ce que la Bible peut me toucher, moi, aujourd'hui, en 2011? Comment est-ce que ça peut vraiment m'aider, là, dans ma vie quotidienne, en 2011? Surtout lorsqu'on parle des tentations, qu'on parle, en tout cas, moi, en parlant avec certains jeunes qui vont dire, mais Abraham, tu sais, il a jamais eu à faire face à la tentation de la télévision, puis des multiples choses qu'il faut pas regarder à la télévision. Il a jamais eu à faire face à ces fêtes-là où, tu sais, la grosse stéréo, etc. Il n'a pas eu à faire face à certaines drogues où il y a certaines tentations qu'on a aujourd'hui qui n'étaient pas les leurs, ils n'avaient pas le cinéma, etc. Mais comment est-ce que la Bible peut être d'actualité alors que les tentations ont juste un peu changé de forme? Comment est-ce qu'on peut l'appliquer à ce qu'on vit aujourd'hui? T'sais? Une des meilleures analogies que j'ai trouvées, c'est celle du corps humain, le système de défense du corps humain. Vous savez que lorsque vous êtes malade, c'est parce que des corps étrangers ont pénétré votre corps et puis ils sont en train de faire la loi. Parce qu'il y a une loi dans votre corps, n'est-ce pas? Et tant que cette loi est respectée, vous n'êtes pas malade. Okay? C'est régi par votre programme génétique, puis votre système immunitaire s'assure que tout marche bien. Mais lorsqu'il y a un corps étranger qui vient, qui se multiplie et puis qui fait la loi, vous êtes malade. Donc comment est-ce que le corps se défend? Comment est-ce que le corps se défend dans cette situation? Le système immunitaire a des moyens de capter, ok, d'identifier tous les corps étrangers qui sont dans votre corps, ok, de les saisir puis de les garder là jusqu'à leur destruction. Okay. Lorsqu'il y a une faille maintenant dans le système immunitaire, ben, pas rentrer dans de toute façon c'est pas ma spécialité là, de pas rentrer de façon complexe comment ça se passe, mais votre corps doit toujours identifier l'élément étranger, le neutraliser, le saisir et puis attendre là jusqu'à ce qu'on puisse le détruire. Et lorsque j'étais à l'école, les profs disaient que pour n'importe quel corps étranger qui existe en dehors de votre organisme, le système immunitaire trouve toujours le moyen d'identifier c'est quoi et de le saisir puis d'attendre sa destruction. Ça, c'est la création de Dieu. C'est comme ça qu'on a été fait, malgré le fait que, on ne sait pas, notre corps est fini, et puis ce qui est à l'extérieur de nous, on peut dire, est infini. Dès qu'il y a un corps étranger qui rentre à l'intérieur de nous, il y a un moyen de répondre à cette attaque. Et moi, je trouve que c'est un beau parallèle à faire avec la Bible, parce que la Bible, ça a l'air d'être juste un livre fini, mais lorsque vous faites face à n'importe quelle situation dans votre vie, il y a un moyen dans la Bible pour y faire face. Amen. Ça fait que Dieu a fait la parole de Dieu de manière à ce que n'importe quelle situation auquel vous vous trouvez confronté, il y a une parole, il y a un verset qui va matcher exactement avec ce que vous vivez, et c'est comme ça que la Bible va être d'actualité pour vous. Donc c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui se développe, et quand on développe cela, on se rend compte que la Bible est un guide infaillible. Par exemple, si je vous dis, tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas fumer, n'est-ce pas? Pas fumer, ce n'est pas bon pour la santé. Maintenant, je vous dis, trouvez-moi un texte dans la Bible qui peut montrer qu'il ne faut pas fumer. Qu'est-ce que vous allez sortir pour dire que ce n'est pas bien de fumer? Qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple? Le corps. Pardon? Ok. Mais ça, c'est pas assez explicite. Ça ne m'appartient pas à moi-même, mais pourquoi ça veut dire? Pourquoi ce serait, ouais, le lien avec le fait de ne pas fumer? Tu ne tueras point, ok. Tu ne tueras point, ça c'est mieux parce que fumer, c'est comme se tuer à petit feu. N'est-ce pas? Se tuer comme un lent suicide, ok? Si quelqu'un détruit le temps, tu peux le défendre. Ok, ça c'est bon. Parce que tu détruis ton corps, ok? Si je vous dis, on sait que c'est pas bien de regarder à la télévision des émissions violentes, des choses qui vont comme exciter vos sens et tout. Quel texte est-ce que vous pouvez sortir par rapport à ça? Tu n'as rien de mauvais devant tes yeux, ou reste faire que tout ce qui est pur, honorable, etc. soit l'objet de vos pensées. Pardon? 4 versets 8, ok. Yes, c'est ce verset en français, c'est ça.
J'ai fait un pacte avec mes yeux.
Ok, j'ai fait un pacte avec mes yeux, ok, tout ça c'est bon. Si je vous dis, surtout pour la société actuelle, si je vous dis, c'est pas bon que j'aille habiter avec ma copine avant de me marier, quel texte vous pouvez sortir pour ça? Oui? L'homme qui trahit son père et sa mère. Ensuite? Ok. C'est pas bon, ok, que j'aille habiter avec ma copine avant qu'on soit marié. Quel texte biblique je peux sortir pour ça? Non, l'homme qui trahit son père et sa mère, je trouve que c'est parfait. L'homme qui trahit son père et sa mère. Et il s'attachera à sa femme. Ça veut dire lorsque tu quittes ton père et ta mère, c'est pour t'attacher à ta femme. Donc tu ne peux pas t'attacher à quelqu'un qui n'est pas ta femme. C'est clair? Si tu t'attaches à quelqu'un qui n'est pas ta femme, tu brises le commandement parce que tu n'es pas supposé. Et l'autre, tu quittes ton père et ta mère, donc tu vas habiter seul. Tu t'attaches à quelqu'un qui doit être ta femme, sinon ça ne marche pas. Ok, donc ça c'est les exemples, on pourrait en trouver plein d'autres dans la parole de Dieu qui nous permettent d'actualiser, ok? Allons dans la Bible, voilà l'exemple du roi David. C'est des textes que je lisais au début, puis je me disais, mais comment ces gens font pour avoir des réponses comme ça, à des cas spécifiques? Parce que la Bible a beaucoup d'enseignements généraux, mais là, quand... Notre thème, c'est la Bible, un guide infaillible. On veut voir comment est-ce qu'on peut aller dans la parole de Dieu pour avoir des réponses spécifiques. Okay, des cas où tu te demandes quoi faire, comment est-ce que, je vois pas trop comment est-ce que je peux justifier cela avec la Bible. Donc, dans l'époque du roi David, dans 1 Samuel 23, versets 1 à 5, voici comment eux, ils procédaient à l'époque. 1 Samuel 23, versets 1 à 5. Il est écrit, on vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla, et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Donc il y a une attaque, David il se demande, qu'est-ce que je dois faire? Donc il cherche une réponse spécifique. Okay? Qu'est-ce qu'il fait? Il consulte l'Éternel. L'Éternel lui dit quoi? Va, et puis, tu vas gagner. Mais il reçoit un témoignage contraire. Par la suite, verset 3. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? Donc, tu es sûr que Dieu t'a dit de faire ça, là? Déjà qu'ici c'est chaud. On va aller contre les Philistins, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Verset 4. David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Donc il a fait confiance à la parole de l'Éternel plutôt que d'écouter ses amis, et il est allé, et effectivement, ça a marché. Maintenant, à l'époque, comment est-ce qu'il faisait pour consulter l'Éternel? Quand on dit David consulta l'Éternel, c'est quoi les méthodes? Non, il allait voir le prophète, ça c'est bon. Autre chose? L'Urim et le Thummim. L'Urim, pardon, et le Thummim. Vous savez c'est quoi l'Urim et le Thummim? C'est des pierres qui étaient enchâssées sur le pectoral du souverain sacrificateur. Donc c'est comme si ça s'allumait en dépendamment de la réponse de Dieu. Okay? Donc tu allais voir le souverain sacrificateur. Est-ce que je dois faire telle chose? Bip, oui. Est-ce que je dois faire bip? Non. Mais c'était simple, c'était clair, vous êtes d'accord? Donc je disais, waouh, il suffisait d'aller voir un prophète, comme dit Karine, ou d'aller voir le souverain sacrificateur, avec l'Urim et le Thummim, et puis tu savais si c'était oui ou non, et puis tu savais ce que tu avais à faire.
Et les paroles, comment ils faisaient pour savoir les paroles? Quand c'est qui va, et sacrificateur qui disait.
Oui, bon, ici, ce n'est pas précisé exactement comment il a fait, mais ça peut être un prophète qui vient dit ainsi par l'Éternel.
Okay.
Ça peut être, bon, l'Urim et Thummim, oui ou non. Et ça peut être aussi à travers un songe. Parce que je me demandais justement comment est-ce qu'il le faisait. Puis Saül, qui était un roi de la même époque, qui était le roi juste avant, là, qui a mal fini, lorsque l'Éternel ne lui parle plus, on disait l'Éternel ne lui parlait plus par les, ni par les songes, ni par l'urine, ni par les prophètes. Donc c'était les trois méthodes, il allait. Et ça ne marchait pas. Oui, oui.
Je pense aussi par les prophètes, je donne un exemple. Je pense aussi que David lisait la loi. Alors des fois, peut-être à travers la prière, Dieu lui révélait en utilisant la loi des prophètes qui l'avaient précédé. Alors peut-être que, je ne sais pas, il a étudié le livre de Josué, a vu comment Dieu lui a dit.
Oui.
Et là, il a dit, ben pas, je peux le livre. Ça peut être une autre méthode en additionnant de tout ça, parce que Dieu se révèle à travers seulement les prophètes, c'est-à-dire les écrits qui ont
été écrits. Ok. Donc David a su, c'était quoi la réponse? Là, il y a un doute, il a confirmé, puis il allait, et puis ça a marché. Donc, je disais ça, et puis je me demandais comment est-ce que moi, je peux appliquer ça pour moi aujourd'hui. Puis un autre exemple, encore plus flagrant, qui me rendait encore plus, j'ai envie de dire, jaloux, c'est l'exemple de Moïse. C'est Exode 33, verset 11, écrit, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, puis Moïse retournait au camp. » Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas spécifique? Tu vois, puis tu parles à Dieu face à face, puis ensuite tu vas dire aux autres, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est simple. Face à face. Vraiment direct, vraiment direct. Et à force de méditation puis d'expérience, j'ai compris, et puis moi j'ai fini par comprendre, Dieu a insisté, et puis insisté pour me faire comprendre qu'aujourd'hui, là, parce que je n'ai pas de prophète vivant, je peux consulter les prophètes dans la Bible, comme disait Karine. Dieu ne me parle pas spécialement par des songes. Moi, Dieu ne m'a jamais parlé par des songes. Donc, comment il n'y a pas d'urim et de thummim aujourd'hui, il n'y a pas de souverain sacrificateur accessible là. Donc, comment est-ce que Dieu me parle? Dieu me parle par la parole de Dieu. Okay? C'est mon guide infaillible. C'est avec ça que je teste tout ce qui se passe dans ma vie. Donc, nous distinguons de manière spécifique la volonté de Dieu au moyen de sa parole. Comme ça que nous la distinguons de façon spécifique. Quelques exemples concrets, quelques exemples que moi j'ai vécu, tout simple. Par exemple, une fois, j'étais un peu au début de la foi chrétienne, et vous savez, il y a les campagnes d'évangélisation qui durent 3 semaines, 1 mois, et puis j'allais tout le temps aux campagnes d'évangélisation, j'étais à l'université, dès que je sors, je cours à la campagne. Quand la campagne est terminée, je rentre chez moi, et puis je mange, je dors, et puis je faisais que ça. Et à un moment donné, la pensée me venait, mais il me semble que tu es trop absorbé par... C'est une bonne chose, hein, c'est la campagne d'évangélisation. Il me semble que tu es trop absorbé par ce côté spirituel, et tu négliges ta famille. Si ta famille ne te voit pas, là, la journée t'étudie, le soir, tu es à la campagne, quand tu rentres, tu manges au lit. Ça fait qu'ils ne te voient pas pendant 1 mois. Puis tu veux venir témoigner de Dieu après. Et puis en tout cas, j'étais perplexe par rapport à cette idée. Puis je me demandais qu'est-ce que je devais faire. Et là, je fouillais la parole. Et Dieu m'a emmené dans 1 Timothée, chapitre 5, et le verset 8. C'est écrit, 1 Timothée 5, verset 8. C'est écrit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Je fais, Ok, là c'était clair. Ça fait que Dieu montrait, écoute, t'as pas, si tu vas tous les soirs comme ça, avec le rythme que tu prends, ou que tu négliges ta famille, eh ben tu manques le but en fait. C'est pas que je veux pas que t'ailles à la campagne, mais il faut pas que tu négliges ta famille pour autant. Parce que tu peux pas être un témoignage par après. Chaque fois que tu vas leur parler de l'église, ça va les irriter. Parce qu'ils vont associer l'église avec mon fils disparaît, puis on n'est pas important pour lui, etc. Vous comprenez? Donc, Dieu m'a répondu à travers ce verset. Puis, une autre fois, quelqu'un a parlé du mal de moi dans mon dos. J'aime pas qu'on parle de moi. Du mal de moi. Ça m'arrive pas souvent, mais là, je l'ai su et j'ai eu plusieurs preuves qu'on parlait mal de moi. Puis, je sentais la colère monter. Puis, comment est-ce que je devais affronter la personne? Comment est-ce que je devais gérer la situation? Donc, c'était comme une marmite, là, ça, avec la pression. Puis ça te tracasse, c'est la perte. En plus, c'est quand c'est quelqu'un de. Si c'est quelqu'un de loin, tu t'en manques un peu. Mais c'est un ami. C'est que comment je vais gérer quand je vais le voir? Est-ce que je vais être hypocrite, machin et tout? Je sais qu'il a dit ça, Il y a plein de personnes qui m'ont prouvé. Puis là encore, il est dans sa parole et puis il m'a envoyé dans Ecclésiaste, chapitre 7. Ecclésiaste, chapitre 7, versets 21 à 22. Ecclésiaste 7, versets 21 à 22, c'est écrit. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Je fais, Ok, Seigneur, j'ai ma réponse. Ok, je vais pas faire mon difficile, mon comme, pourquoi tu parles mal de moi, et puis, on va laisser passer la chose. Que toi-même, t'as fait la même erreur, ça fait que peut-être la fesse, quand un ami pardonne, ça s'arrête là, tu vois. Donc c'était spécifique par rapport à la situation, et puis la marmite s'est calmée tout de suite. Donc c'était Ecclésiaste 7, versets 21 à 22. Ensuite, une autre fois, j'étais perturbé par le péché, ok. J'avais péché là, j'étais mal à l'aise avec Dieu. Puis je me demandais comment trouver la réconciliation. Il semblait que je m'étais repenti, j'avais demandé pardon, mais j'étais encore en train de lutter avec la pensée de ce que j'avais fait, puis c'était quoi les conséquences, puis je me disais, mais Seigneur, je t'ai demandé pardon, c'est fini, pourquoi je suis en angoisse comme ça? Puis là, dans ma méditation, Dieu m'a parlé à travers l'histoire de Genèse chapitre 3, m'a parlé à travers l'histoire du péché originel. Il m'a montré une chose, il m'a permis de voir un parallèle qui m'a aidé à comprendre pourquoi est-ce que mon esprit était aussi perturbé, malgré le fait que j'avais demandé pardon. Et dans Genèse 3, c'est la chute, n'est-ce pas, Adam et Ève. Et Dieu m'a montré que Adam et Ève, ils étaient dans un milieu parfait. Okay? Tout se passait bien avant que Lucifer arrive et puis qu'il succombe à la tentation. Lorsqu'ils ont succombé à la tentation, ben, la sentence, c'était la mort, n'est-ce pas? Mais ils sont pas morts tout de suite parce que Dieu a dit qu'il va sacrifier sa vie à leur place. Et l'animal qui a été sacrifié était préfiguré le sacrifice de Jésus qui allait venir. Donc à cause du sacrifice, ils n'allaient pas payer la conséquence ultime qui est la mort éternelle. Mais l'environnement, le jardin d'Éden parfait dans lequel ils étaient, ils ont perdu cet accès. Okay? Et du coup, ils ont déclenché les 6000 ans de péché. C'est pour ça que vous et moi, nous sommes là aujourd'hui. Et c'est seulement lorsque Jésus va revenir, qu'on va aller au ciel, qu'il va restaurer le jardin d'Éden, mais encore plus beau que comme c'était à l'origine. Donc je vais montrer que, tu vois, ils étaient dans un environnement parfait, ils ont péché, du coup, la tragédie des siècles pendant 6000 ans, okay, et ensuite, je reviens puis je restaure, mais ça va être mieux qu'au début. Mais entre-temps, il y a ces 6000 ans de péché. Ça veut dire qu'à chaque fois que moi je pêche ou que vous péchez, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de déclencher dans votre vie une histoire de la rédemption en miniature. C'est que Dieu vous pardonne, mais on commence. Cain, Abel, Abraham, la nation d'Israël, les rois, les juges, les rois, le Messie qui arrive, la papauté, la fin des temps, Jésus qui revient, puis boum, finalement là vous êtes restauré. Comme si vous n'aviez pas péché au début. Est-ce que vous comprenez? Parce que même si vous demandez pardon à Dieu et puis vous pardonne là, sur le champ, eh ben, passe ton histoire de la rédemption en miniature. Et puis, à un moment donné, vous allez rencontrer, ok, là, la restauration parfaite est revenue. Mais ça prend du temps. Et c'est pas parce que Dieu vous pardonne pas, mais c'est parce que c'est comme ça qu'il gère le péché. Okay? Oui, bien sûr.
Dieu a pardonné Adam et Ève, les anges qui barrent la jardin,
oui.
C'était comme un reminder à chaque jour que tu as, regarde ce que tu as fait. Mm-hmm. Alors, je pense que c'est la même chose avec nous. On doit nous souvenir de ce qu'on a fait parce que ça se peut que ça arrête qu'on t'a encore. Mm-hmm. Et aussi pour qu'on peut dire à les autres, fais pas ça parce que moi j'ai fait. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, on peut utiliser aussi pour aider les autres et nous aussi.
Oui, parfait. Oui, Karine.
Rapidement, je pense que ce qui arrive, c'est que Dieu nous pardonne,
Mais des fois, il faut enlever des conséquences, mais pas toujours, mais surtout cette angoisse qui perdure nous fait comprendre la malignité du péché. Mmh. Et le péché n'a pas sa place, parce que c'est vraiment, oui, Dieu nous pardonne, mais ça, le péché doit disparaître. Mmh. Et tant que le péché existe, on n'aura jamais la paix finale. Mmh. Donc, ça montre à quel point le péché est mauvais. Donc, c'est beaucoup de gens ont été restaurés par Dieu, mais développent une haine du péché à cause de toute cette angoisse.
Oui, oui.
Et c'est ce que Dieu a besoin, qu'on haïsse le péché parfait.
Haine, haine. Pour nous rendre aptes à vivre au ciel en parfaite harmonie avec des êtres qui n'ont pas péché, qui n'ont jamais péché. Donc d'un côté Dieu me montre ça, puis de l'autre il m'envoie une parole d'encouragement en me parlant du fils prodigue. Tu vois, le fils prodigue, lorsqu'il est revenu, non seulement il a été restauré comme fils, comme fils, puis il lui a remis la bague qui signifie qu'il avait l'autorité du fils, il n'a pas été traité comme un serviteur, et on a fait la fête, on a tué le veau gras, etc. Mais ça suffisait pas pour moi. Dieu m'a parlé à travers l'histoire de Pierre. Puis, tu sais, il y a différents personnages dans la Bible avec lesquels vous vous identifiez plus que d'autres. Puis, ou que Dieu vous montre, va tirer plus lui. Puis, moi, parfois, j'ai envie de dire, je suis vraiment Daniel. Ouais, j'ai envie d'être Daniel parce que j'adore l'histoire de Daniel. J'arrive presque pas à trouver de défaut de Daniel. Mais Dieu me dit, non, t'es Pierre, tu sais, tu parles vite. Puis, tu dis telle chose, mais tu vas renier le Seigneur après. En tout cas, Dieu m'a montré que je suis plus Pierre qu'autre chose, pour le moment. Et Pierre, pour reprendre ce que Wesley disait hier, si vous remarquez, Pierre, lorsque il a renié Jésus, il a renié trois fois, qu'est-ce qui s'est passé après comme scène? Il est allé il est retourné à Gethsémané, il s'est mis à pleurer. Mais qu'est-ce qui s'est passé après comme scène? Ouais, enfin, tout ce que vous dites est juste, pardon, c'est ce que j'ai en tête. C'est que Pierre, il n'a pas revu le Seigneur après. C'est-à-dire, le dernier contact qu'il a eu avec le Seigneur, avant la mort, c'était de le renier. C'est tout ce qu'il voyait en train de maltraiter son maître. On l'emmène à la croix, on crucifie, les gens se moquent de lui, etc. C'est que vous imaginez, vous avez marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, à la dernière minute, vous commettez cette gaffe. C'est ce dernier souvenir que vous avez de Jésus, puis il meurt sur la croix. Puis dans la tête, c'est pas comme, oui, bien sûr, on va ressusciter le troisième jour. Non, c'est pas ça. C'est fini. Okay, corps, j'ai tout gâté. J'ai marché avec Dieu pendant 3 ans et demi, puis à la fin, bang. Un peu comme Moïse, je suis 40 ans dans le désert, puis à la fin, Dieu me dit, non, tu rentreras pas dans le pays, dans le pays de Canaan. Puis t'as passé 40 ans à diriger ce peuple rebelle, à supporter leurs bêtises, etc. Puis tu commets une erreur à la dernière minute, puis non. Tu ne rentreras pas dans le pays. C'est dur. C'est que Pierre, il vivait une agonie mentale. Pas, non seulement le fait qu'il avait perdu la compagnie de Jésus, mais en plus, la culpabilité de sa faute se rajoutait à tout cela. Les autres disciples aussi vivaient une agonie, mais Pierre, c'était pire. C'est comme, c'est de ma faute, peut-être j'aurais pu faire quelque chose. En tout cas, toutes sortes de pensées lui passaient par la tête. J'aurais pu ne pas dire ça ce soir. J'aurais pu prier à Gethsémané, pourquoi je dormais, etc. Écrasé par le poids du péché. Puis là, Jésus ressuscite le troisième jour. Et il envoie dire aux disciples qu'il est ressuscité. Donc Pierre, il a tout ça en tête. Même si on vient dire que Jésus est ressuscité, lui, son dernier souvenir, c'est... Je l'ai renié, puis je l'ai fait, etc. Admettons qu'il est ressuscité. Est-ce qu'il veut vraiment me voir? Est-ce qu'il veut vraiment voir ma face là? Après ce que j'ai fait, est-ce qu'il n'est pas, ok, je suis ressuscité, prends tes distances, puis je vais aller voir le Père. Comme on réagirait normalement en tant qu'être humain. Puis là, Dieu montre que non, bien sûr, Dieu n'est pas comme nous. Dans Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16, et verset 6. Ok, donc, Magdala et Marie, mère de Jacques. Je suis au verset 6. Chapitre 16, pardon. Oui, chapitre 16. Oui, je disais donc... Marc, l'évangile selon Marc, le chapitre 16, verset 6. Okay? Donc, je disais, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, sont allées au sépulcre et un ange leur a parlé pour qu'elles aillent donner la bonne nouvelle comme quoi Jésus est ressuscité. Au verset 6, écrit, il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Et verset 7, « Mais allez dire à ses disciples et à qui ?» Et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Donc pourquoi il a dit « et à Pierre » ? Parce qu'il sait comment est-ce que Pierre pense. Donc il dit « allez dire à tous les disciples et à Pierre, qui ne pensent pas que je l'ai rejeté, okay, que je vais vous précéder en Galilée. » C'est Pierre, c'est comme « ouf, j'ai encore une chance ». Il était soulagé, ça veut dire que Jésus... Malgré son agonie à Gethsémané, puis tout ce qu'il a passé, il a vu Pierre le renier, etc., crucifixion, son peuple qui se moque de lui, à la résurrection, il a quand même une pensée pour Pierre. Et il a pris soin de dire à l'ange, « Dis, allez dire à ses disciples, et rajoute, et à Pierre, sinon il ne va pas venir ou il va avoir peur, etc. » Donc Dieu n'est pas comme nous. Dieu, il sait exactement ce qui nous passe par la tête, exactement comment il faut répondre pour nous désamorcer, quoi, pour que nous le fassions confiance. Donc ça, c'est des exemples personnels où Dieu m'a parlé à travers sa parole. Je pourrais en prendre d'autres. Puis il y en a aussi d'autres exemples que je partage pas. Il y en a qui sont vraiment, vraiment profonds, mais là, c'est juste entre vous et le Seigneur. Ça sert à rien que je vous dise ça. Vous allez pas, c'est mon expérience avec le Seigneur, puis il y a votre expérience avec le Seigneur. Même chose par la parole. Et il y a que la parole de Dieu qui a cet effet-là. C'est-à-dire, quand, la Bible dit, c'est comme une épée à deux tranchants, ça va direct dans votre âme, exactement sur le point, comme un missile tête chercheuse. Paf! Dit, oh Seigneur, c'est de ça que j'avais besoin. Il y a ce livre que j'ai lu récemment, ça s'appelle L'audace de la foi de George Miller, que vous pouvez trouver à la Fédération. C'est l'histoire d'un Prussien qui a vécu en Angleterre et qui a fait un orphelinat. Il s'occupait pendant toute sa vie de 10 000 enfants. Et il n'a jamais demandé un sou à personne. Il faisait rouler l'orphelinat juste en priant. Il priait et il recevait des dons et c'est comme ça qu'il faisait rouler l'orphelinat. Il n'a jamais demandé d'argent à personne. Il demandait juste à Dieu. Donc il y a toute une série d'expériences de foi incroyables que vous pouvez voir dans ce livre. Donc ils sont là le matin, ils ne savent pas comment ils vont manger, ils dressent les tables, asseyez-vous les enfants, on va manger, il n'y a rien là dans la cuisine, asseyez-vous les enfants, on va manger. Et puis ils prient, merci Seigneur pour le repas que nous allons manger, Amen. Puis là, quelqu'un frappe à la porte, oh, il y avait du pain en surplus hier, et puis on se demandait où est-ce qu'on pouvait l'emmener, je me sentais impressionné de vous l'emmener, bang, on a le pain. Wow. Deux minutes après, quelqu'un frappe à la porte, et le laitier, tu sais, qui avait comme un stock de lait, j'ai été impressionné de vous l'apporter. Wow. Un autre monsieur qui arrive, j'ai 100 livres que le Seigneur m'a impressionné de vous donner. Beaucoup de témoignages comme ça à la dernière minute. Puis même parfois, il priait, il dit, Seigneur, je veux un don, mais je veux que ce soit telle personne qui me fasse le don. De tant de livres. Et la personne en question fait le don avec exactement le montant qu'il a demandé. Parce que je lisais ça, je me disais, mais il vit dans quel monde? Dans quel monde? Non, c'est un chrétien. Il y a des aspects de la foi qu'on doit découvrir encore. On peut aller à un niveau supérieur. Et puis, l'équivalent adventiste que j'ai trouvé là, c'est David Gates. Parce que David Gates, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur David Gates, mais il s'est inspiré de George Miller pour faire les expériences qu'il fait avec le Seigneur en ce moment. L'audace de la foi de George Miller. Et à la fin de son livre, parce qu'il a eu un grand ministère, George Miller, il a eu, peut-être les 50 ou 45 premières années de son ministère comme responsable de l'orphelinat. Puis ensuite, les 15, 20 dernières années de sa vie, il allait en mission partout sur la terre, prêcher l'évangile. À peu près ça, là, si... Et c'est un homme, donc, de sagesse, puis il a écrit des conseils. Puis à la fin de son livre, il écrit... Comment est-ce qu'il faut discerner la volonté de Dieu et nous, on se concentre comment il faut le discerner avec la parole, n'est-ce pas? Puis il donne 6 étapes. Puis je vais partager les 6 étapes avec vous sur comment discerner la volonté de Dieu pour quelque chose de spécifique, là, ok? Je parle pas les choses en général. Vous avez une question spécifique, vous voulez savoir comment est-ce que Dieu va vous répondre. Étape numéro 1, OK? Étape numéro 1. Je cherche d'abord à m'assurer s'il n'y a dans mon cœur aucune volonté propre sur un sujet quelconque. C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à soumettre ma volonté totalement à Dieu, OK? Les 9/10 du tourment que se donnent certaines personnes proviennent en général de ce fait. Et les 9/10 des difficultés sont vaincues lorsque nos cœurs sont prêts à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Quand on est véritablement dans un tel état, la volonté de Dieu ne tarde pas à être révélée. Okay? Donc, vraiment, je m'assure que dans mon cœur, là, il n'y a pas de... Je suis pas en lutte. C'est-à-dire, je suis prêt à faire comme Jésus, que non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Étape numéro 1, la disposition du cœur. Okay? Étape numéro 2, ce premier point acquis, je ne m'attarde pas aux sentiments et aux impressions. Si on était ainsi, je tomberais bientôt dans de grandes illusions. Okay? Les sentiments ont leur place là, mais il ne faut pas qu'elles prennent le dessus sur ce qui fait du sens. D'accord? Sur ce qui est logique ou sur ma soumission à la volonté de Dieu. Un peu comme David. Dieu dit « va », puis ses amis lui disent « va pas ». Qui est-ce que tu écoutes? Dieu, ok? Étape numéro 3, je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu. Okay? L'Esprit et la parole vont ensemble. Si je consulte le Saint-Esprit seul, sans la parole, je puis encore me faire illusion. Et si le Saint-Esprit me conduit, ce sera toujours en accord avec les Écritures. C'est-à-dire, Dieu peut te répondre, ok, admettons par une circonstance, un événement autre qui est dans la parole de Dieu, mais tu vas toujours pouvoir valider ton expérience par la parole de Dieu. Parce que si c'est l'Esprit Saint qui t'a dirigé dans cette expérience, la parole et l'Esprit vont toujours ensemble. Donc, je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu dans la parole. Étape numéro 4. Ensuite, je mets dans la balance les circonstances. Ces dernières indiquent souvent la volonté de Dieu en accord avec la parole et le Saint-Esprit. Les circonstances, si vous voulez, la providence, la façon dont Dieu dirige les événements, c'est aussi une façon qu'il utilise de vous parler. Les choses n'arrivent pas par hasard, ok? Cinquième étape, je supplie ensuite Dieu de me révéler toute sa volonté. Ok, là, Seigneur, il faut que tu coules les choses dans le béton, il faut que ce soit clair, 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 pour que je puisse faire mon pas, pour que je puisse m'engager dans la voie que tu me montres. Et étape numéro 6, ainsi par la prière, l'étude de la parole, la réflexion. Donc je combine les deux, la prière, j'étudie la parole, la réflexion. J'en viens à me former un jugement. Et selon ma connaissance et ma capacité, mon esprit étant en paix, je prends la détermination d'agir toujours dans un esprit de prière, dans les choses ordinaires et dans les transactions de grande importance. Cette méthode m'a toujours réussi. Le discerner la volonté de Dieu, suivez ces 6 étapes. Et là, c'est moi qui ai mis ça en conclusion, là, un autre texte qu'il donne. En conclusion, ça donnerait quoi? Okay. Là, c'est ce qu'il a écrit en mars 1895. Il dit, au cours de ma vie chrétienne, soit 69 ans et 3 mois, je n'ai pas le souvenir d'avoir recherché la volonté de Dieu une seule fois, avec sincérité et persévérance, au moyen de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Sans avoir été invariablement conduit sur la voie droite. Mais lorsque la droiture du cœur et l'intégrité devant Dieu m'ont fait défaut, et que je n'ai pas su attendre avec patience le conseil de Dieu, et que j'ai préféré le conseil des autres hommes aux déclarations de la parole du Dieu vivant, alors j'ai commis de graves fautes. Ok, désolé si vous voyez des trucs hommes, deuxième. Donc, tant qu'il a suivi cette méthode, tout s'est bien passé. Lorsqu'il n'a pas été patient ou qu'il a manqué de sincérité et qu'il a décidé de faire confiance aux hommes plutôt qu'à Dieu, à ce moment-là, il a commis de graves fautes. Mais quand il suivait les étapes qu'on a vues précédemment, il arrivait toujours, okay, à une parfaite révélation de la volonté de Dieu. Ça, c'est moi qui rajoute. La prochaine diapositive, c'est moi qui rajoute. Voici un principe simple aussi que Dieu m'a montré. Principe très simple. Si vous lisez le livre « Premiers écrits », vous allez voir qu'Ellen White parle de la contrefaçon qui va avoir lieu à la fin des temps. Puis elle dit que, à la fin des temps, l'ennemi va essayer de contrefaire tout ce que Dieu fait. on veut recevoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas? L'ennemi va essayer de donner le Saint-Esprit, son esprit, pardon, à son peuple. Il va leur donner beaucoup de puissance, il va leur donner beaucoup de lumière, okay? Et puis il va essayer de leur donner un semblant de paix. L'Esprit Saint va nous donner aussi beaucoup de puissance, il va nous donner beaucoup de lumière, mais il va nous donner cette paix-là. Philippiens 4, verset 5, il dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix qui vient de Dieu ne peut en aucune façon être contrefaite par l'ennemi. Il y a seulement Dieu qui peut donner cette paix-là. Donc, dans votre processus de recherche de la volonté de Dieu, assurez-vous que vous avez la paix de Dieu à chaque étape. Parce que là, vous êtes sûr que ça ne peut pas être contrefait, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut vous donner cette paix. Un dernier principe, peut-être que je vais partager avec vous. Allez dans Lévitique, chapitre 24. Verset 10. Lévitique, chapitre 24, verset 10. Donc, on revient à Moïse. Un épisode où Dieu a révélé sa volonté à Moïse, que je trouve, qui rajoute un principe sur tout cela, que, intéressant pour nous, je pense. Au verset 10, il y a eu un cas, ok? Donc, Moïse a fait face à une situation à laquelle il n'avait jamais fait face. Verset 10, écrit, « Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomit, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. » Donc, il y a ce fils moitié israélite, moitié égyptien qui vient, qui blasphème, maudit le nom de Dieu. Oh, on n'a jamais fait face à ce type de situation. Qu'est-ce qu'on fait? Okay. D'ailleurs, vous allez voir, c'est une parenthèse là, dans les noms aussi, il y a un message. On ne dit pas le nom du fils, mais on dit le nom de sa mère et le nom de son grand-père. Sa mère s'appelle Shélomit. Ça signifie quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est paisible. Okay. Elle vient de la tribu de Dan, qui signifie juge. Donc, il n'a pas suivi l'exemple de sa mère qui est paisible et qui est douce. Okay? Il a suivi l'exemple de son grand-père qui s'appelle Dibri, qui signifie quelqu'un qui est verbeux, qui prononce beaucoup de paroles en vain. Donc, il avait l'exemple de sa mère versus l'exemple de son grand-père. Il a suivi de choisir le mauvais exemple. Et là, il commet cette grave faute qui est de blasphémer le nom de Dieu. Et Moïse va consulter l'Éternel pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. On l'a mis en prison, okay? En attendant. Au verset 13, c'est que l'Éternel parla à Moïse et dit « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Okay. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras « Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Donc voici la réponse, voici la sentence. Lorsque vous avez ce type de situation, voilà comment il faut réagir, lapidation. Mais le texte s'arrête pas là. Et puis c'est là où je vois l'autre principe que Dieu ajoute, parce que ça continue jusqu'au verset 23. Et lorsqu'on est au verset 17, Dieu dit « Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a fait à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel votre Dieu. » Ensuite, Moïse parla aux enfants d'Israël. Ils firent sortir du camp le blasphémateur et le lapidèrent. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Ce que je vois là dans ce texte, c'est qu'il y a une situation spécifique. On ne sait pas quoi faire, on le met en prison en attendant. Ils vont consulter l'Éternel et Dieu répond. Mais au verset 16, il a déjà tout répondu. On sait qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation. Mais Dieu développe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous cherchez la volonté de Dieu pour quelque chose de spécifique, non seulement Dieu va vous révéler qu'est-ce que vous devez faire là, mais il va étendre des principes sur comment dealer avec, comment faire face à des situations similaires ou d'autres situations. Donc vous cherchez une réponse et vous en recevez 10 000 en fait. Donc Moïse savait comment traiter le blasphémateur, Puis n'importe quelle blessure, ben, ce sera blessure pour blessure, œil pour œil, dent pour dent. C'est d'autres principes qui vont dans la même ligne. Donc Dieu veut nous révéler plus que juste la petite question qu'on lui pose. Vous voyez? Donc n'hésitons pas à aller à lui pour avoir nos réponses. Donc Jésus nous appelle, okay, à faire une totale confiance en sa parole et à aller chercher les réponses spécifiques, okay, à ces détails de la vie, okay, où on ne voit pas immédiatement qu'est-ce qu'il faut faire. On peut trouver la réponse dans sa parole, comme on l'a vu ce matin, en suivant ces étapes et en étant confiant que c'est par ce moyen-là qu'il veut le faire. Oui.
J'ai une question. Parce que, on sait que quand on prie à Dieu, on demande quelque chose, on a trois réponses. C'est oui, non, oui, attends.
Oui.
Mais, comme, on sait qu'on lui dit non, mais des fois, ça peut être difficile de savoir si c'est oui ou attends. Mais comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on peut déterminer quel est le
Quand c'est pas un oui ou un non clair, ok, quand c'est pas oui ou un non clair tout de suite, ok, c'est normal que ça prenne du temps parfois. Okay. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer que tu gardes. Moi, je dis la clé, c'est vraiment ça. Peu importe où tu es rendu dans ta phase pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu, il faut que tu assures que la paix de Dieu soit avec toi à toutes les étapes. Maintenant, que ça prenne du temps ou pas, c'est pas ton problème, parce que c'est Dieu qui a le contrôle. On n'a pas le contrôle sur quand est-ce que Dieu répond et puis comment il répond. Tout ce sur quoi on a le contrôle, c'est de lui demander. Okay? Et s'il décide qu'il veut tarder à répondre, eh ben, ça veut dire que toi, dans ce temps-là, tu dois demeurer en lui. Donc, quand on dit demeurer en Jésus, là, c'est ça que ça veut dire, notamment. Oui, continue de prier.
Non,
tu continues. Tu continues de prier, puis tu attends patiemment sa réponse.
C'est comme Daniel, dès le premier jour, le Seigneur voulait le répondre, mais il persévérait dans la prière.
Oui.
Alors, le Seigneur, il veut, mais il y a des choses, des fois, qu'il veut nous révéler dans le processus pour que quand il nous répond, ça ait l'impact maximum.
Exact.
Que s'il répondait maintenant, on ne comprendrait pas tout le temps.
Oui.
Mais parce qu'il y a des fois que des personnes nous disent que prie pour ça, et je laisse le temps. Et si tu ne sens pas la paix, c'est que soit il y a quelque chose dans ton cœur qui n'est pas résolu, ou bien tu n'es pas confiant que le Seigneur t'a répondu. En général, quand tu as assez cette confiance qu'il m'a entendu et qu'il va répondre, il y a une paix qui descend, tu n'as plus besoin de demander. Parce que là, c'est dans la foi, c'est la grande des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas. Okay. Alors, si tu continues à le demander parce que tu n'es pas en paix, tu continues, mais il y a un moment donné, tu peux dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Je ne comprends rien. Mais j'ai confiance que tu es en contrôle. Je sens que tu es en contrôle et tu es en paix. Maintenant, pour moi, en général, tu peux passer à d'autres choses.
Okay.
Mais moi, c'est aussi mon expérience personnelle. Okay.
Puis j'insiste sur le fait que ce point-là, la paix de Dieu, ce n'est pas quelque chose que Dieu donne sporadiquement. Ce n'est pas quelque chose qu'il donne à intervalles. C'est quelque chose que tu peux avoir tout le temps, peu importe ce par quoi tu passes. Donc, c'est de ça que tu dois t'assurer, parce que tant que tu l'as, comme je disais, puisque l'ennemi ne peut pas la contrefaire, tu es sûr que Dieu est avec toi. Même si tu n'as pas la réponse à ta question, même si tu es encore perplexe, même si tu pries encore, même si Dieu est avec toi, et c'est l'essentiel, tu demeures en lui.
Okay.
Maintenant, la balle est dans son camp et il agira en son temps.
Okay.
Oui.
Ce que j'aimerais dire par rapport à la question que tu dis, en fait, une expérience, c'est moi que je dis, c'est que le fait de demeurer en Dieu, c'est super important, mais également. Dieu te demande de lui faire confiance à chaque étape, mais il va te répondre dans l'action. Moi, des fois, certaines fois, je demande quelque chose à Dieu, puis je m'assois. OK, j'attends. Mais des fois, Dieu me dit, écoute, marche. C'est comme, continue à faire tes affaires, puis je vais te, au fur et à mesure que je marche, mais là, il me dit, c'est comme les portes s'ouvrent, les portes ne s'ouvrent pas. Tu comprends? Donc, je veux faire une demande à l'université, j'ai trois universités, j'ai fait quelque chose que je veux faire. je vais pas rester là à attendre mon Seigneur, je vais attendre que tu me dises laquelle. Tu comprends? Donc, je vais envoyer ma demande. Et puis, finalement, je ne suis pas allée à l'université. Tu comprends? Mais j'ai envoyé la demande. Puis, j'ai continué à faire confiance à Dieu. Malgré que j'étais dans l'action, j'ai continué à faire confiance à Dieu.
Ok, alors, c'est comme ça, tu trouves un emploi. Tu lui envoies ton résumé. Et c'est que Dieu
oui, tu es obligé de demeurer. Il était obligé de demeurer dans l'action. En fait, mon expérience, je raconte mon expérience, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais moi j'avais un gros problème avec ça, c'était dans le sens que je priais et j'attendais. Mais à un moment donné, tu m'as dit, mais écoute, travaille, marche, fais quelque chose, bouge-toi. Puis quand je me bougeais, mais les portes s'ouvraient ou se fermaient, tout simplement. Puis c'est comme ça que mon expérience, c'est que Dieu me montre une lumière à la fois. Il ne me donne jamais tout le portrait de l'affaire d'un seul coup. Je marche, il ouvre, il me montre, puis il me redirige.
C'est un peu le principe. Tu sais, quand il dit sa parole est une lampe à mes pieds, il verse mon âme sentier. La nuit sur un camp, quand il n'y a pas de lumière, tu as besoin d'une lampe de poche. Mais une lampe de poche, parce que c'est vraiment une lumière sur mon sentier, c'est pour te diriger. Mais est-ce qu'une lampe de poche te montre un kilomètre? Mais tu dois marcher la distance du faisceau. Mais quand tu seras arrivé, ben là, elle va te montrer la distance jusqu'à ce que tu arrives. Tu n'as pas toute la lumière sur le bout du chemin, mais tu en as une partie pour au moins te guider, pour dire que je suis encore dans le sentier. C'est comme ça que tu finis par arriver.
D'autres commentaires, questions par rapport à la méditation de ce matin? En tout cas, c'est ça que... oui, c'est ça que j'allais dire. Honnêtement, pour ce matin, j'ai pensé à plein de fois qu'est-ce que je pourrais présenter, et j'ai voulu présenter plein d'autres choses, mais à chaque fois, j'étais impressionné qu'il faut que tu parles sur comment discerner la volonté de Dieu. Maintenant, j'espère que ça peut être des outils qui vont vous aider, et puis surtout la confiance absolue que Dieu veut parler par sa parole. Par sa parole, je répète. Il n'a pas besoin d'autre chose, et que vous devez valider toutes vos expériences via sa parole. Parce qu'à la fin des temps, c'est comme ça qu'on va... tenir, ok, ferme face aux circonstances. La parole de Dieu dit ça, même si le président, ou même si ta famille, même si tes meilleurs amis disent autre chose, la parole de Dieu dit le contraire, tu suis ce que Dieu dit.
Peut-être juste rajouter, je remets encore l'importance d'être ouvert à ce que Dieu change tes plans. Puis ça, je trouve que c'est, enfin, personnellement, je le dis tout le temps, c'est que certaines fois, ton plan, c'est ça. Et lors dans tes prières, il faut que tu demandes, Seigneur, aide-moi également à être prêt à reconsidérer ma décision. C'est à laisser l'ouverture à Dieu d'agir. Ce que je veux, c'est ça, Seigneur. Je veux vraiment ça. Mais également, je reste ouvert à ce que tu me répondes autrement également et que tu me donnes, tu me réponds.
Je t'invite à prier là-dessus. Que Dieu augmente notre foi, c'est-à-dire notre confiance en sa parole. Notre Père, notre Dieu, merci pour les révélations de ta parole. Seigneur, merci pour cette révélation écrite qui nous permet de savoir clairement, Seigneur, qu'est-ce que tu penses, qui est-ce que tu es, quel est ton caractère, et que nous ne nous laissions pas perturber par toutes les philosophies de ce monde ou autres, Seigneur. Développe dans nos vies, à travers nos expériences, à travers les témoignages d'autres personnes, la confiance absolue dans ta parole pour te suivre dans toutes les circonstances et montrer aux autres, Seigneur, le rocher solide, Seigneur, l'assurance qu'il y a à faire cela, Seigneur, le bon sens, je dirais, qu'il y a à faire cela pour être guidé dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui prétendent être des guides, mais qui sont des aveugles, qui emmènent des gens dans un fossé, Seigneur. Mais ta parole est le seul guide infaillible, lorsqu'on la suit, Seigneur, on est sûr de rester sur le bon chemin. Et on est sûr que ta volonté nous sera révélée pleinement en suivant les étapes, en nous conformant aux conditions, Seigneur, de ta promesse. Je te remercie pour tout. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen.